Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
La conve de Vaut mieux en rire.
Quel bonheur de vous retrouver cette semaine dans la conve. La conve qui est dédiée à un sujet qu'on adore. Avec pour la première fois deux invités extérieurs de l'équipe de Vaut mieux en rire. Oui. Qu'on vous présentera dans un second temps. Mais hélas, on a ce qu'on appelle les queues de contrat. C'est-à-dire des personnes qu'on est obligé d'avoir. Des gens de la team de Vaut mieux en rire. Avec cette semaine, notre cher ami Jason.
Bonsoir, Wissem.
Bienvenue dans la conve.
Merci beaucoup.
Et on va voir que tu vas nous être très utile. Autour du thème de cette semaine qu'on va développer dans un instant.
Il a vécu quand même 4 ans en Bretagne.
Anaïs, tu es là aussi, bienvenue.
Bonsoir, merci
Anaïs,
pour l'invitation.
Mais merci à toi d'être dans la conve. Tu étais déjà venue parmi nous pour parler de télévision, c'était ça?
Non, de l'amour. Apparemment, j'y connaissais quelque chose.
Bah, oui. Et tu es là en solo, mais pour nous parler d'un autre projet solo que tu as eu quand tu es parti vers le Grand Nord. On en parle dans un instant.
Excuse-moi,
mais arrêtez de rire.
Non, mais c'est bien écrit.
Bah oui, c'est bien écrit.
J'ai pas rigolé.
C'était pas drôle. Alex, tu es là en observateur.
Ah bah moi je viens des étoiles quelque part.
Voilà. Toi tu viens et t'es tombé d'un astéroïde il y a 30 ans. Et sont avec nous ce soir, je vous demande de les accueillir le plus chaleureusement possible. Non, pas d'applause. Ouais. Pas d'applause.
Si.
C'est des applauses combes.
Ouais, des petites applauses. On a l'honneur de recevoir deux personnes qui vont nous parler de leur parcours. Louisa, bonsoir.
Salut.
Bienvenue.
Merci.
Bienvenue dans la conve de Vaut mieux en rire. Mais merci à toi. Et on reçoit Felipe. Salut Felipe.
Bonsoir.
On est tellement content de vous avoir. Le thème de cette semaine, c'est l'expatriation, le mal du pays. Quand on est un déraciné, qu'on est dans une autre culture, parfois même dans un autre continent, et qu'on se retrouve à devoir s'adapter, à devoir se sentir parfois illégitime, étranger dans son pays. Je sais que c'est des thèmes qui vous parlent beaucoup, puisque Jason, tu as vécu en Australie pendant un petit moment, et c'est pour ça que tu es là ce soir. Anaïs, tu as vécu au Canada.
Oui.
Et tu vas nous expliquer pourquoi tu es parti et pourquoi tu es revenu. Toi, Alex, tu as vécu...
En Picardie.
Bassin d'Arcachon.
Ce qui est, je pense, de toutes les aventures... la plus exotique. Louisa, toi, tu viens d'Australie et tu vis en France.
Ça va s'entendre.
Oui, oui, oui.
Et franchement, c'est fantastique parce que ça fait 7 mois que tu es ici.
Oui.
Et on va parler de tout ça. Et Felipe, évidemment, tu nous viens du Brésil.
Exactement.
Et pareil, ça fait un petit moment que tu es là. Et pour ceux qui ont écouté la conve la semaine dernière, c'est la personne qui partage la vie d'Adrien. Et donc, on a raconté comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, puisque j'étais là. Hein, et ah, c'est grâce non. à moi, c'est grâce à moi qu'ils se sont rencontrés.
Et c'est vrai, les gars.
Vous avez toute l'anecdote dans l'émission incroyable. De la semaine dernière. C'est grâce à moi qu'ils se sont rencontrés à un événement où j'ai vu, encore une fois, vous connaissez, des places gratuites. Ah. C'est toujours la
et
même histoire.
Il y avait une place gratuite dans le cœur de Félix.
Eh oui, qui a été comblée.
Et globalement, ça, tous les deux, en ce moment, vous avez très froid.
Pourquoi,
d'accord.
Pourquoi
bah parce que c'est le printemps, mais il fait 5 degrés. Donc pour eux, ils viennent de l'hémisphère sud.
Mais vous, je vais mourir. Alors on va commencer par ça. Oui. La météo.
Vous le vivez comment?
La météo en France, comment est-ce que vous le vivez? Si on parle trop vite, Louisa, n'hésite pas à nous le dire. On se recale. On
We
parle
can slow down.
We can slow down if je it's possible. Okay.
Merci.
Merci. Bah oui, mais c'est fantastique. Enfin, je veux dire, elle est là depuis 7 mois. Ouais. Et comme dirait l'autre. Quelqu'un dans l'équipe a dit, je dirais pas qui, comme quoi c'est possible. Voilà. Et on n'avait pas allumé CNews. Hein, mais... Non, non, tu ne feras pas de commentaires, tu n'es pas dans l'émission cette semaine. Donc Louisa, on va commencer par ce sujet. En vrai, ça peut paraître anecdotique,
non.
Mais parle-nous de la météo. Comment est-ce que tu reçois la météo française?
Ah oui, c'est un vrai cauchemar. J'ai pensé vraiment que j'étais sur le point de mourir pendant l'été parce que honnêtement, il n'y a pas de soleil, pas du tout. Ça n'existe pas.
C'est vrai.
Je
c'est
suis vrai. Australienne, ouais. je respirais comme le soleil est là. C'est, ouais. c'est pas possible de vivre sans le soleil, alors c'est trop difficile.
Ouais.
Mais maintenant, je suis très contente ouais. parce qu'on arrive à printemps, il y a beaucoup de soleil, même
ça
si
commence.
C'est un peu
ah, mais oui.
Comme si comme ça, le météo, mais ça va.
Parce que tu es arrivée en octobre.
À septembre.
Ah ouais. Ah,
parce septembre, que il faisait beau.
Septembre,
encore.
Il a fait très chaud
oui,
en
oui,
France.
Oui, oui. oui, très chaud, très beau.
Mais pas de soleil.
Et après,
mais décembre, janvier, février,
ah,
oui, oui,
oui.
Amen.
Ah ouais, bah, c'était horrible, non. c'était horrible. Non, je suis d'accord.
Bah, on dit torpeur, non. si tu
mais
veux.
Mais voilà.
En France, on dit tanas.
Tanas,
ça veut dire. Fihala, ça veut dire. En France, on dit tefihala. Felipe.
Qu'est-ce que tu disais?
Felipe, toi qui viens du Brésil, j'adore le Brésil. Hein. Je suis allé une fois, c'est un de mes voyages préférés.
Là, c'est le meilleur pays de
la monde. Samba,
c'est exceptionnel. La bouffe, les gens. Bon, j'ai eu un peu peur de
le soleil.
J'avoue, j'ai eu un petit peu peur. Mais sinon, quel régal. Le Corcovado, j'ai adoré. Hein.
Tu as les Kehio. Hein.
Wall Street. c'est le mec qui
ça se voit qu'il a fait Kehio. Donc,
oui, voilà. La cathédrale là, qu'ils n'ont pas fini de construire. bah alors, dis-nous un petit peu la météo. Comment est-ce que tu le ressens en France?
Ça fait quoi d'avoir de l'air frais?
Oui, c'est ça.
Globalement.
C'est vrai que c'est
vraiment,
moins,
gars,
c'est moins
horrible.
Humide.
T'as acheté
vraiment.
Un parapluie pour la première
Genre,
fois de ta vie.
C'est pour ça que tous les ans, je rentre au Brésil. Pour bah arriver oui. ici, il ouais. fait 40 degrés là-bas, mais j'ai préféré 40 degrés moins 4. Donc, cette année, il a fait 40 degrés presque tous les jours. Hein. Donc, j'ai passé un mois et demi wow. là-bas, mais le jour que je suis arrivé en France, il a fait moins 4. J'étais en mode, ok, non, je vais rentrer. Pas possible. Donc, j'attends l'hiver prochain et j'essaierai.
Ouais, et t'es retourné il n'y a pas très longtemps là, pendant une
ouais,
longue période.
Ouais, ça fait un mois que je suis revenu.
Ouais, alors ça s'est bien passé.
Trop est-ce bien que... passé. Hein.
Mais ça nous amène à notre deuxième sujet, qui est de dire pourquoi à un moment donné est-ce que vous avez décidé de quitter un endroit où vous vous sentiez probablement bien. Qu'est-ce qui vous a poussé, que ça soit Anaïs, Jason, de quitter à la France, ou alors pour vous, Louisa et Felipe, de quitter votre pays natal pour la France. Donc on va peut-être commencer. Dis-moi.
Non, juste avant, moi, tu me demandes pas l'écart de météo entre Compiègne et Paris.
Entre le parc Astérix et Courbevoie.
Dans le PIB, peut-être.
Là, il peut pas s'en empêcher. Alors, peut-être cette première question, dans quel but est-ce qu'on part? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va chercher dans ce
pourquoi
pays?
Pourquoi le voyage?
Pourquoi voyager? Pourquoi on
ah,
part?
Ah, c'est pas pareil, voyager et
pourquoi
s'installer,
est-ce qu'on
dans,
part
un autre
s'installer
pays
dans un autre pays. J'ai envie de commencer peut-être par Anaïs, parce que c'était toi dans une configuration un peu particulière que tu peux nous développer.
Ouais, moi, c'était dans le cadre de mes études. Donc, en fait, je n'avais pas le choix de partir à l'étranger. La troisième année de mon cursus se faisait forcément à l'étranger. Mais j'avais le choix, entre guillemets, enfin, je pouvais faire des vœux sur les pays et les universités aussi. Parce qu'à la base, j'allais quand même en échange universitaire, même si j'avais 9 heures de cours par semaine. Donc, à la fin, c'était pas vraiment le sale projet. Et donc, j'avais mis le Canada en premier. Pourquoi? Parce que j'étais déjà allée à Montréal en voyage scolaire. probable. Voilà, j'ai eu la chance d'aller en voyage scolaire, classe basket à Montréal, et j'avais adoré la mentalité du pays. Alors, le Québec est quand même différent du reste du Canada. Et du coup, j'avais envie, moi, de perfectionner aussi mon anglais. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Ottawa, qui est une ville anglophone en Ontario, dans une autre province. Et aussi parce que la position géographique permet pas mal de bouger autour aux États-Unis, faire un spring break, etc. Et je voulais vraiment être dans une immersion totale avec plein d'étudiants de plein de pays différents. Donc, on était, par exemple, le spring break, on est parti à 23, on avait 14 nationalités différentes.
D'accord. Donc, et ça, c'est vraiment. Donc, toi, c'était vraiment un but aussi de. Une parenthèse dans ta vie. Et tu savais en partant que ça allait être
c'est
une
ça.
Parenthèse.
C'est ça. J'avais mon billet de retour déjà pour le mois de mai. Donc, je savais vraiment quand j'allais revenir.
Ce n'était pas le cas de Jason. Ouais. Ce qui n'était pas le cas de Jason qui, lui, est parti et à un moment a dû revenir presque forcé par ton cœur, en fait, en quelque sorte.
Oui, moi, je suis reparti deux fois. La première, c'était en 2013, il y a 11 ans. Je venais d'avoir ma licence. J'avais 22 ans, je travaillais dans une boutique américaine, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et une de mes collègues m'a dit, je suis parti en Australie, regarde mes photos. J'ai regardé, en un mois, j'ai annoncé à mes parents que je partais, j'ai pris mon visa, mon billet d'avion, mon hôtel, et j'ai démissionné. Et en un mois, en fait, je me suis retrouvé à Sydney, tout seul avec mon sac à dos à 22 ans.
Ce qui me permet de dire, dans cette première phase, que c'est quand même une mentalité. Parce que moi, il faut que je m'auto-convainque pendant 20 ans, avant que je commence à envisager.
Tu pèses le pour le contre.
Lui, il est vraiment sur... c'est pas du coup de sang,
ah, si,
mais pas loin.
Tête, si,
et quelque part, t'as vécu ce que jamais je ne vivrai dans ma vie, et je le vis très bien, mais t'as vécu sur ce coup de tête 5 années qui sont irremplaçables dans ta vie.
T'as fait confiance à la vie.
Je suis parti un an, donc j'ai fait Sydney, Melbourne et Perth en Australie. Je suis rentré en France pendant 4 ans, et ça a été 4 ans à Paris très difficile, mentalement, parce que je sentais qu'un bout de moi appartenait à l'Australie et j'avais très envie d'y retourner. Donc en 2018, j'ai pris un billet d'avion et un visa pour la Nouvelle-Zélande, en espérant pouvoir retourner en Australie. J'ai fait un an en Nouvelle-Zélande. Et au moment de partir, à 5h du mat, le PDG de la boîte pour laquelle je travaillais en France m'appelle et me dit « Jason, on ouvre à Sydney, je te propose d'avoir un sponsorship là-bas. » Donc moi, j'ai fait tous les visas en plus. J'ai fait Working Holiday Visa, j'ai fait Student Visa, j'ai fait Sponsorship, j'ai fait absolument tous les visas. Je suis parti en 2019, donc en Australie, et là-bas, j'y ai vécu un peu plus de deux ans, où j'ai ouvert des boutiques et j'ai vraiment vécu pendant la période Covid. Et j'ai dû rentrer. Parce que j'ai fait une dépression, en fait. Je me suis retrouvé dans la période de Covid en Australie, qui était le pays avec la Nouvelle-Zélande les plus strictes.
Très, très dur.
Tu y étais, toi, pendant cette époque-là. Tu peux nous en parler, peut-être, quelle était l'ambiance, les conditions. Est-ce qu'elles étaient vraiment très difficiles, comme on a cru le comprendre?
Ah, bien sûr, c'était trop, trop difficile. J'avais 19 ans quand on est entré à Covid. Mais c'était un peu difficile pour moi, parce que j'habitais à Sydney, mais je pense que Jason, il était à Melbourne. Et alors, c'est une tête différente. Alors, il y avait des lois différentes. À Melbourne, c'est très bien connu que c'était vraiment, vraiment, vraiment dur. Je pense qu'il y en avait 5 lockdowns. Je ne sais pas comment on dit en français.
Confinement.
Mais à Sydney, il y en avait que 2.
J'ai eu la malchance de les suivre, en fait. Oui. J'ai fait le confinement de Sydney. Et le jour où j'ai bougé à Melbourne, il rentrait en confinement.
Oui.
Et le jour où je suis rentré à Sydney, il rentrait en confinement. Oh, aujourd'hui, j'en rigole. À l'époque, je rigolais pas du tout. Enfin, c'était vraiment monstrueux.
Non, mais si je peux rebondir, ça me fait penser le fait qu'il y a un événement majeur mondial qui arrive, une crise. Moi, j'en avais vécu un petit peu différent, mais quand j'étais à l'étranger, eh ben, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui te rattache à ton pays. Le fait qu'il y a une espèce de communion nationale. Moi, c'était les attentats de 2015 du Bataclan. Moi, j'étais au Canada, en fait. Et je voyais tous mes amis, c'est avec le décalage horaire, moi, c'était la nuit, etc. Et en fait, j'avais l'impression qu'il se passait un truc auquel moi, je ne pouvais pas comprendre tous les tenants et les aboutissants. Et le Covid, je pense que c'est un peu pareil. Il y a une crise majeure. Un truc qui concerne ton pays, ta sécurité, tu vois comment tout le monde se réorganise dans sa vie. Et toi, tu n'es pas dans ton pays natal à ce moment-là. Et en fait, ça fait bizarre. Il y a un sentiment bizarre qui se crée.
Là-dessus, on peut peut-être demander à Felipe, parce qu'en plus, au Brésil, ça a été costaud le Covid quand même. Je ne sais pas où tu étais pendant le Covid.
Et puis, Felipe, on peut peut-être t'interroger dans la même lignée sur les événements qu'il y a eu au Brésil quand même ces dernières années, où politiquement, il y a eu de gros changements. Toi, tu l'as vécu d'un peu plus loin. Et ça fait partie un peu de ce que dit Anaïs, c'est-à-dire que même loin, est-ce qu'on a toujours un œil sur ce qui se passe? Et est-ce qu'on se sent toujours faire partie d'un tout, même si c'est très loin? Et comment est-ce que toi tu l'as vécu? Anaïs, c'était pour les attentats. Est-ce que toi tu as un exemple un peu similaire qui t'est arrivé? Est-ce que tu gardes quand même un œil sur l'actualité, sur ce qui se passe là-bas?
Bah oui, bien sûr. Moi, j'ai pas eu l'occasion de voter en 2018, donc ça, je regrette énormément. Même si je sais qu'en vote, ça n'a pas changé le résultat qu'on a eu. Si vous savez bien, Bolsonaro a été élu.
Alors, c'est facile de se dédouaner, si je puis dire, Philippe, mais bon, c'est pas ma faute.
Je me suis dit, franchement, en 2022, je vais faire la campagne. J'ai fait la campagne ici en France et avec mes amis, on a été nombreux à voter. J'ai pris 4 heures de queue pour voter.
À l'ambassade, tu devais aller?
À l'ambassade. Mmh. Donc, du coup, oui, j'ai gardé un peu l'œil dans toutes les actualités de mon pays. C'est mon pays, quoi. Même si j'y habite plus, c'est mon pays. Et j'ai vu que les gens là, ils se sentent bien et tout. Et c'était 4 années très difficiles. C'était 4 années où il n'y avait pas de loi vraiment. Les gens, et les racistes, les homophobes, ils se voyaient dans notre président. Pas le mien, mais dans notre président. Et du coup, il se sentait autorisé à faire tout et n'importe quoi.
Ouais. Mmh.
Donc du coup, ça, l'homophobie a augmenté. Au Brésil, à l'époque, c'était un pays merveilleux pour être homosexuel. Aujourd'hui, c'est pas le cas.
Ça a libéré la haine chez les gens.
Exactement. C'est une régression, quoi.
Exactement, c'est une régression, je vais dire, une régression de 10 ans pour moins de 4 ans. Mmh. Donc vraiment, ça fout la haine un peu partout. Par exemple, les Covid, on a été très touché parce que il a pas voulu faire
il croyait pas.
Il croyait pas. Hein,
fallait boire le gel hydroalcoolique.
Boire le gel hydroalcoolique, prendre des médicaments, etc. Il était même, il a fait de la publicité pour des médicaments qui c'était pas scientifique du tout. Donc du coup, c'était. Vraiment, c'était un cauchemar.
Est-ce que du coup, toi, tu as une vision un peu différente de ce qui se passe en France ? Est-ce que tu te dis qu'en France, on a quand même de la chance d'être dans un pays avec beaucoup de liberté ? Est-ce que tu as peur aussi éventuellement pour ton pays d'adoption qui est la France ? Est-ce que tu portes un regard différent sur la situation politique, par exemple, en France par rapport à ce que toi, tu as vécu à distance au Brésil ?
Oui, je vois que vous avez beaucoup la chance, en fait. Hein. J'aime bien Macron. Donc quand j'ai dit ça, tout le monde peut rigoler.
Donc du coup,
ça sert à couper.
Reprends la phrase.
Tu voulais dire mélange. Non.
J'ai dit que j'aime bien Macron
sur les droits LGBT. En tout cas, c'est pas lui qui va revenir en arrière.
Et sur le droit de mourir dans la dignité, c'est fantastique. Sur l'IVG, c'est très bien.
Il pense à sa compagne.
En tant qu'étranger, je vois. Ok, Macron, il est bien. Je suis arrivé en France, c'était déjà Macron, donc c'était le seul que j'ai connu, quoi. Donc, et j'ai vu, même si c'était beaucoup, c'était 3 mois le premier confinement qu'on a fait,
ouais.
C'était très difficile. J'étais dans un appart de 18 mètres carrés à Paris tout seul, avec aucun copain à côté de moi. Et toutes mes potes, ils étaient à plus de 1 km, donc c'était très, très, très difficile même. Mais j'étais là, j'ai dit vas-y Macron, tu fais bien, tu as bien choisi, il faut faire comme ça parce que j'ai regardé mon pays, quoi. C'était le deuxième qui a eu plus de morts dans le monde entier.
Mais t'as un recul que tu n'as pas quand toi,
donc,
tu vois que...
Donc quand je voyais les gens manifester dans la rue en mode ouais, il y a trop de choses, je suis désolé les gars...
Non, mais je suis
si vous voulez que la France devienne le Brésil...
Et moi, il y a un truc qui m'intéresse parce que dans ce qui est devenu le Brésil, je crois comprendre que tu ne partages pas ce qui est devenu le Brésil,
exactement.
En tout cas sous Bolsonaro, il y a eu un énorme retour en force du catholicisme, qu'on appelle ça évangéliste. D'ailleurs, Bolsonaro est un énorme évangéliste. Et c'est pour ça qu'il y a eu un énorme recul, parce que je ne vous fais pas un schéma hein, sur l'évangile. Et
non, mais explique.
C'est ce qui fait que ça harangue les foules aussi.
En gros, pour expliquer, c'est un catholicisme plus, enfin, c'est quasiment de l'intégrisme religieux. Résultat, bon, évidemment, les homosexuels, j'en parle pas.
IVG,
etc. Donc, c'est un retour en arrière absolu. Et on ne croit pas en la science. Enfin, bref, on est vraiment dans le. Et ça a pris notamment beaucoup les prisons et bref, les classes aussi populaires au Brésil. Ce qui était assez nouveau. C'est ce qui fait qu'il a fini par gagner les élections là-bas. Et je voulais voir ce que tu. La différence que tu vois entre ce pays qui a toujours été quand même assez catholique et qui l'est encore plus avec les évangélistes par rapport à la France qui, elle, même si elle a des racines catholiques, évidemment, la France, elle est de moins en moins dans la religion, mais vraiment de moins en moins et en plus multiculturelle. Et donc, toi, est-ce que ça t'a choqué maintenant que tu vis vraiment là depuis quelques temps ou ça te marque pas ?
Ouais, franchement, j'ai grandi comme évangéliste. J'ai dit ça, mais c'est pas le fanatisme. Parce qu'au Brésil, il y a des évangélistes et des évangélistes, comme on dit. Donc, du coup, la classe fanatique qui est là, en train de... à la Bible, à le pouvoir, les homosexuels vont à l'enfer et tout, ça a grandi beaucoup. Ouais. C'est le taux des évangélistes qui sont devenus fanatiques. C'est très, très, très fort ces derniers temps. Et en tant que le président, il est un fanatique des droites et tout. Ça lui donnait le pouvoir de pouvoir tout dire et à tout le moment. Mais j'ai grandi en tant qu'évangéliste et pour moi, la religion était la base pour tout. Parce que ma mère, elle était évangéliste, ma famille est évangéliste. Et quand je suis venu en France et j'ai vu que vous êtes pas vraiment dans la même longueur d'onde, et j'étais en mode waouh, c'est sympa ça en fait.
Non, mais en fait, on a le principe de laïcité qui inscrit aussi dans la loi.
Le Brésil est un pays laïque aussi, mais nous on a une vision de la laïcité très différente aussi.
Il faut comprendre que la France, il faut le dire aussi, est un pays anticlérical depuis 1905. Enfin, pardon, on déteste la religion en France, en tout cas officiellement. Enfin, on la déteste pas dans les textes, mais la vérité, c'est culturellement.
Non, mais on a renversé le.
Voilà, donc le rapport à la religion n'est pas du tout le même. Le Brésil, là, je crois que 90% des gens croient en Dieu et ils croient.
C'est ça que la question à Felipe, parce que quand tu viens d'un pays. On va pas se mentir, le catholicisme est né en Italie et globalement, il a été porté en Europe pendant 16 siècles. Et je me posais la question de me dire, quelqu'un qui vient d'un pays qui est encore où la croyance, la religion est forte, vient en France en se disant peut-être je vais dans le berceau de la religion que j'ai dans mon pays. Par la colonisation, etc. Et en fait, bah, eux, c'est les premiers qui nous l'ont apporté. Et en fait, c'est les premiers à en partir, quoi.
Tourner
parce qu'on
le dos.
Dit, ouais.
Et c'est, je sais pas, moi, ça, c'est ces questions-là que je
non,
me
mais
dis.
Non, mais c'est intéressant.
Ça doit être intéressant. Je connais pas du tout la religion en Australie. Je sais pas comment on vit la religion là-bas.
Alors, je sais pas si toi, c'est plus marqué. Je pense que c'est plus proche de l'Europe et du Royaume-Uni, en fait, en termes de. Comment est-ce que toi tu le décrirais, Louisa?
Pas trop, parce qu'on fait une partie des monarchies, alors on est toujours vraiment catholique. Ouais. Mais en disant ça, on va devenir vraiment, vraiment laïque. Spécialement, en particulier avec des gens qui ont le même âge que moi, environ 20 ans et des choses comme ça. Où je trouve que la spiritualité va grandir beaucoup en Australie aussi, mais oui, en général, on est vraiment laïque, ou on va devenir vraiment laïque. Mais au passé, on était vraiment catholique ou chrétien, des religions comme ça.
Okay, c'est très intéressant ce qu'elle dit. C'est vrai que la spiritualité, qui est aussi une nouvelle religion, est en train de grimper énormément en Australie, notamment l'astrologie ou ce genre de choses. Et il y a quelque chose en Australie qui est beaucoup plus installé que nous, on a chez nous, c'est les sectes. La scientologie, par exemple, ou les témoins de Jéhovah sont beaucoup plus développés en Australie.
Parce que j'allais dire Dieu merci.
Non, c'est pas la bonne expression.
République merci. On a en France un arsenal qui est très très dur sur ce sujet-là. Je pense à la Miviludes, les mecs qui font un travail incroyable. Il y a des vrais gros moyens de contourner ce genre de choses.
Les grosses
horribles.
Sectes organisées, oui. En revanche, les dérives sectaires dans des groupes, ça, c'est encore c'est plus difficile.
Mais on s'attaque à ça. Heureusement qu'on a un État un peu fort encore. Il nous reste encore un peu d'État dans ce pays.
Mais cela dit, je voulais. En fait, j'ai juste mis ce sujet qui n'est pas le sujet de la conve, mais je l'ai mis sur la table parce que.
Tu as raison d'ailleurs.
Vu que tu viens d'un pays catholique, ça m'intéressait de voir parce que ça me fait rire qu'on soit un continent qui a importé, qui a. T'as envoyé ça sur quasiment tous les autres continents et qui est le premier à arrêter quoi.
C'est un sujet intéressant.
À part l'Italie, c'est un sujet intéressant.
C'est très intéressant.
On a fait pareil avec Zaz, hein, tu vois.
À la limite,
l'envoyer en.
Là, j'ai imposé le sujet religion parce que ça m'intéressait. Mais quel est à toi et du coup aussi à toi, même si ça fait que 7 mois, quelle est la chose que vous imaginiez sur le mode de vie européen et français et en fait. C'est pas du tout ça.
Alors, je vous propose de répondre à cette question dans quelques instants, juste après la première chanson. Mais juste avant, j'ai une question pour Felipe. Quelle est ta chanson préférée d'Anita?
Ah mon Dieu, mais vai malandre.
Eh ben écoute, tu l'as dit, je le répéterai pas pour pas me ridiculiser. Mais donc, Felipe, on écoute tout de suite.
Vai malandre.
Vai malandre. Eta louca, tu brincando com bumbum. Eita louca, tô brincando com o bumbum.
Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção. Cê aguenta, se te olhar, desce, quica até o chão.
Fala brincando. Vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum.
Anita, chanteuse brésilienne, icône au Brésil.
Elle va venir en France. Hein,
et elle vient en France.
Le 27 juillet.
Ah, voilà, si vous voulez des
prenez vos places.
Voilà,
génial.
C'est à Paris.
C'est à Paris. Ah bah je ne sais pas la salle. Ah bah c'est d'accord. Au Élysée Montmartre.
Ah bah,
si
très bonne salle.
Pas.
Très belle salle.
Donc, tu sais la salle, en fait.
Je ouais, sais en pas fait, la salle. C'est le moment que j'ai dit que
oui.
Je me suis
dit. Non, mais donc, prenez vos billets. Donc, il est prudent de louer pour Anita que vous venez d'écouter dans la conf de Vaut mieux en rire. Notre épisode est dédié à l'expatriation au mal du pays avec cette question qu'on s'est posée juste avant de se quitter pour une petite pause musicale. Quelle est la chose que vous attendiez le plus dans le pays où vous avez décidé d'émigrer et au final vous avez eu une grosse déception. Mmh. On va commencer par Louisa.
Ou l'inverse hein, d'ailleurs.
Ou alors qu'est-ce que t'attendais le plus surprise, en venant quoi. En France et dis-nous si t'étais contente ou pas contente d'avoir raison ou pas.
Ok, honnêtement, j'ai décidé de venir en France parce que j'avais envie de manger beaucoup de pain au chocolat.
Ouais.
Et c'est la vérité.
Ouais.
Mais je ne sais pas si vous savez, mais il y a un grand stéréotype que le francophone ou le français ne travaille pas. Et ça...
C'est vrai?
Non, mais non!
Ah bon?
Bah, t'es pas tombé
non,
au bon endroit.
Okay. Je pense qu'ils travaillent très fort. Mais ouais. Même les oreilles sont vraiment chaotiques. Par exemple, on enregistre à minuit.
C'est vrai.
Mais en Australie, non, ça arrive jamais. Mais je pense que le français travaille très dur. Ouais. Alors pour tous mes Australiens...
Merci de nous le dire.
C'est pas la vérité.
Merci. Oh. On est très productifs en France.
En fait,
hein.
C'est parce que la France a un niveau horaire sur le temps plein.
Oui,
la semaine totale à 35 heures, ce qui est très bas.
Ouais.
Mais la moyenne... En fait, elle travaille toujours 40-45.
Ouais, mais même en 35 heures, on travaille plus que les autres en termes de productivité.
Mais dès que t'es cadre, de toute façon, ça saute.
Et ce qui est fantastique, c'est qu'en France, on implémente aussi maintenant progressivement la semaine de 4 jours.
Oui.
C'est-à-dire qu'on va travailler 35 heures en 4 jours. Donc, on va avoir 3 jours de week-end et je pense que c'est l'avenir. Bah, je pense que dans 10-15 ans, il y aura beaucoup, beaucoup d'entreprises qui travailleront.
Je suis précurseur. Hein. Ouais. Je vous cache pas que.
moi, je fais la semaine de 2 jours, par exemple. Felipe, qu'est-ce que toi, tu attendais et tu t'es dit, soit oui, je suis content, soit je suis un peu déçu.
Ah voilà. Il y a beaucoup de stéréotypes au Brésil. Il y a un stéréotype qui est moi, je ne voulais pas que ça soit comme ça. C'est que les Européens, ils sont très fermés. Principalement les Français.
Très quoi ?
Très quoi ?
Fermés en soi.
Fermé,
voilà, je suis désolé.
Non, c'est pas grave, c'est pas grave.
Ah, froid, tu veux dire ?
Froid, exactement.
Pas accessible.
Froid.
Okay. Est-ce que c'est vrai ou pas?
C'est vrai. Je suis désolé, je suis arrivé en France.
Non, mais tu compares aux Brésiliens, forcément.
Exactement. Donc, du coup, je m'attendais qu'il soit fermé, qu'il soit froid. Et c'était vrai. C'était vrai. Je suis arrivé à...
Spoiler alerte.
Non, mais je peux dire que je ne suis pas d'accord.
Tu n'es pas d'accord?
Non.
Peut-être parce que tu n'as pas fait une école d'ingé. Hein.
Ou parce que les Australiens sont encore plus froids.
Peut-être.
Non, mais je ne pense pas que les Australiens sont beaucoup plus froids. Mais je pense que peut-être... oui, je suis d'accord que les Français peuvent être un peu froids au début, un peu cliqué. Mais... Quand on se fait connaissance, c'est très, très, très bienvenu.
Chaleureux.
Je me sens ouais, chaleureux.
Quand on connaît, on se lâche.
Vraiment accueilli. Ouais, non. Mais c'est une stéréotype en Australie aussi que le français peut être vraiment
ouais, j'ai
difficile.
Pris 2 ans pour faire mon premier pote français. Hein, donc, donc, du coup, c'est pour ça que j'ai dit que la froideur de français, c'est quelque chose qui m'a marqué. Mais aujourd'hui, franchement, j'ai appris à vivre avec le français. Et
le français
en soi et un français
ouais,
et du coup j'ai beaucoup plus de facilité de parler avec les gens
et t'es un peu tombé amoureux de la France et d'un français quand même.
C'est
beaucoup d'histoires
d'expatriés, c'est pas à cause d'Adrien que je suis là hein.
D'expatriés sont liés à ça
ouais. Mais ça a participé quand même l'amour
non.
Le fait de trouver
non,
l'amour
non j'avais non. Décidé de continuer en France
peu importe
même avant de connaître Adrien pourquoi droit de travailleur hein.
Ah oui
je suis désolé ça c'est la chose que j'aime oh,
c'est vrai
c'est la chose que j'aime le plus ici 25 jours par an
CGT en fait tu vois on est là.
Dis-le, c'est important.
25 jours par an que tu peux prendre de vacances et tu peux prendre n'importe à quel moment. Les gars, ça, c'est génial.
Ouais.
Et les RTT en plus.
Oui.
Bon, on n'a pas le soleil, mais on a les vacances.
Ouais, exactement. Vous pouvez venir au Brésil. Donc,
Ça, c'est un point que j'aimerais appuyer quand même. C'est le fantastique système dans lequel on est en France. en termes de sécurité sociale.
Vous avez la chance.
En termes de travail.
Vous avez vraiment la chance.
En termes de soutien aussi des syndicats qui font un travail incroyable. Est-ce que ça, vraiment, vous l'avez ressenti comme étant une différence énorme par rapport à votre pays?
Énorme.
Énorme. Louisa aussi, est-ce que tu as vu une différence ou moins?
Ça fait pas assez de temps.
Moins.
Peut-être. Moins. Parce que t'as pas encore eu la grippe, je pense.
Non, c'est pas
le flou.
Parce que oui, je pense qu'il y a beaucoup des choses pareilles en Australie.
Ouais.
Mais
ouais.
Aussi, c'est un peu difficile pour moi d'en parler parce que mon métier est un peu différent. Ça marche un peu différent okay. avec mon titre de séjour et blablabla. Mais oui. Mais je suis d'accord qu'il y a beaucoup de positifs en ouais. France avec le métier et des choses comme ça. Ouais. En particulier... on contre des pays peut-être comme Brésil ou des autres pays du monde.
Bien sûr,
oui.
Bah, on a beaucoup de choses. Mais Philippe, oui. toi qui es là depuis un peu plus longtemps, tu as pu le constater.
Exactement, et j'ai travaillé en CDI depuis 2 ans, donc j'ai pu bien profiter des vacances, et, notamment au Brésil.
Et la sécurité sociale aussi, peut-être.
La sécurité
aussi,
sociale, la maladie et tout. Hein.
Bah, et deux remarques avant qu'on pose la même question aux Franzosi, à ma gauche. Non, juste, je pense honnêtement, la plupart des étrangers quand même qui viennent vivre, ils viennent vivre à Paris. Et les Français eux-mêmes, la majorité, ils ne sont pas à Paris. Et les Français eux-mêmes trouvent que le Parisien est froid.
Oui, arrogant. Arrogant.
J'étais à Compiègne, donc c'était encore...
Compiègne, c'est chez moi. Et Compiègne, c'est des Parisiens de l'Oise.
Oui,
c'est
exactement, pareil. C'était encore pire.
Ouais, ouais,
non, mais par rapport au sud...
Tu vas dans le sud, tu vas dans l'ouest,
dans le nord,
c'est vraiment des gens accueillants et qui n'aiment pas les Parisiens.
Ou même dans les Outre-mer, on l'oublie à chaque fois, mais ouais, pardon, on a des îles d'Outre-mer où les gens sont ultra chaleureux.
On lui aurait pas posé la question de la météo, tu vois, s'il était allé en Guadeloupe.
Et deuxième chose, juste pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, elle a parlé de son visa. Et je sais pas vous, hein, mais moi j'avais presque oublié qu'en France il y avait besoin de visa.
Oui.
Parce qu'on a tellement la chance d'avoir l'Union Européenne, où on voyage parmi les plus beaux pays du monde.
C'est des mots qu'on ne connaît pas.
Sans utiliser de visa et juste avec une carte d'identité française.
Même pas en fait.
Tu prends l'avion, t'as même pas besoin de montrer.
Non,
c'est une chance.
Quasiment plus.
C'est en Union Européenne, quasiment
quand même.
Si, la carte d'identité pour prendre l'avion, mais pas de visa.
Si tu prends ta voiture, sauf si tu te fais arrêter comme si tu te faisais arrêter en France, t'as pas besoin de montrer un
libre
peu d'identité.
Libre circulation.
Bah, oui, c'est fantastique.
Et du coup, dans l'autre sens, par exemple, Jason, le truc que t'as constaté en Australie, que tu n'imaginais pas du tout, positif ou négatif?
Il y a énormément de choses. Après moi, c'était surtout positif. À chaque fois que je compare l'Australie à la France, il y a très très peu de choses sur lesquelles je me dis la France est mieux que l'Australie. Alors oui, en termes d'histoire, en termes d'art...
On la bouffe quand même?
Non.
Ah
je
ouais
pense que l'Australie mange mieux que la France, oui.
Ah merde.
Mais en termes d'histoire...
Parce qu'on a même plus ça, les gars.
En termes d'architecture, en termes de culture en général, je pense que la France est meilleure.
Oui,
parce que c'est tout simplement la colonisation qui s'est passée en Australie, etc. Je pense aussi, un des trucs négatifs que j'ai ressenti en Australie, c'est le racisme. Je n'accepte pas qu'on dise que la France soit raciste, parce que je trouve qu'en Australie...
Je savais pas.
Beaucoup de problèmes de séparation des communautés, etc. C'est mon point de vue, c'est pas une réalité, c'est mon point de vue. Par contre, derrière, ce qui est génial en Australie, c'est le lifestyle. Déjà, ils font tout 2 à 3 heures
attends,
avant nous.
D'accord, mais le lifestyle français, comme tu dis, qui serait inférieur...
L'art de vivre.
L'art de vivre à la française, c'est aussi l'histoire que tu viens de décrire, c'est-à-dire la culture...
Oui.
L'architecture.
J'ai jamais dit qu'il était
inférieur. La lutte contre le racisme. Tout ça, c'est la construction. Donc, notre lifestyle, c'est tout ça, en fait.
J'ai jamais dit que c'était inférieur.
Les lumières.
Ça dépend ce que t'appelles lifestyle. Mais si lui,
j'ai
il allait parler du lifestyle très prosaïque.
Si c'est effectivement qu'on mange plus tard ou que...
Oui, je finis ma phrase.
Vas-y.
On fait tout... Enfin, en Australie, ils font tout 2 à 3 heures avant. C'est-à-dire qu'ils se lèvent très, très tôt le matin. Ils profitent de leur matinée.
Ils ont du soleil, quoi.
Ils mangent à midi. 11h30 midi, et surtout, moi, ce que j'aime,
c'est cosmique, c'est pas
lifestyle. On finit le travail.
il fait jour plus tôt.
Il finit le travail beaucoup plus tôt. Il dîne à 18h.
Bah oui, mais.
À 20h30, les restaurants commencent à fermer les cuisines. Et en fait, on mange, et ensuite, on commence à sortir vers 10h du soir. On va en boîte à 11h, 11h30, on rentre à 2h du mat. Et ça.
Et t'es frais le lendemain.
Adoré.
La nuit est très 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 bien en Australie. Ouais, mais c'est un peu chaotique en France.
Oui.
Mais ça ne me dérange pas trop.
Il faut dire qu'on enregistre très tard. Il est 23h30.
Oui. On est des latins, c'est tout.
On est des
latins. La deuxième chose que j'ai adoré, c'est le côté optimiste, le côté positif, qui m'a fait repartir de France et qui est compliqué pour moi en France, parce que je me considère quand même extrêmement influencé par la culture anglo-saxonne depuis très petit, et je trouve les Australiens comme les Américains ou les Anglais, extrêmement positifs, optimistes, joyeux, ce que nous, on n'a pas en France.
Vas-y,
mais toi, t'es en « when there is a will, there is a way ».
Et le troisième point, quand j'entends par exemple l'expérience de Felipe, j'ai un peu l'impression d'avoir vécu la même du Brésil à la France ou de la France en Australie, ou les libertés là-bas. Et quand je parle de liberté, je parle de toutes les libertés, notamment celle qui me tient le plus à cœur, les libertés économiques. En Australie, c'est un bonheur. Et c'est une conversation qu'on a absolument quotidiennement avec Louisa, parce qu'on est très proches, et on parle de cette vraie différence entre les libertés en Australie, le capitalisme et la possibilité de créer son entreprise et de travailler et d'avoir des contrats comme on le souhaite beaucoup plus avec les entreprises, et l'ultra-étatisme et le socialisme envahissant en France.
Je comprends. Tout le monde notera que tu mettras donc sur le même plan les libertés des homosexuels, de l'IVG et du droit de mourir dans la dignité avec le fait de créer
France.
Son entreprise. Anaïs, peut-être sur l'esprit anglo-saxon.
Ouais.
J'ai pas compris ta...
Mais justement, c'est là tout là le problème. C'est que pour moi...
Dis pas de livre si c'est ta question.
Il y a deux poids, deux mesures pour
le problème, pour moi, on ne devrait pas mettre sur le même point et dans le même nuage d'idées le fait que ça soit un pays ultra-capitaliste et ultra-libertarien et le fait qu'on on veuille juste des avancées sociales. Et
ça te dérangera qu'en fait, c'est extrêmement lié.
Mais pas du tout.
Si, et dans l'histoire.
Absolument pas.
Et dans l'espace.
Mais absolument pas.
J'adore, il y a Lucas qui fait des mimes derrière.
C'est pas une opinion, mon chat. C'est la science, c'est la vérité.
Mais pourquoi est-ce qu'une liberté économique supplémentaire devrait forcément s'accompagner de plus de droits pour les êtres humains. Il y a eu plein
d'articles là-dessus.
Il y a eu plein de dictatures.
Il y a eu plein de dictatures
de droite, de mecs ultra libéraux qui avaient enlevé tous les droits.
Une dictature ultra libérale un jour dans l'histoire. Une dictature ultra libérale.
Mais si tu veux, la Chine.
Libérale la Chine.
Mais bien sûr.
Non, il y a un problème de vocabulaire.
Non. Écoute-moi.
Un problème de vocabulaire.
Économiquement, la Chine a bâti son développement, mais bien sûr que si.
Oui, mais c'est
son
l'interventionnisme
récent
quand même.
Mais oui, d'accord. Mais si tu veux, comparé à nous, ça n'a rien à voir.
Oui.
Ils ont poussé les curseurs sur ce point-là. Et il y a eu beaucoup de régimes très autoritaires qui n'avaient absolument. Et le Bolsonaro est sûrement
un exemple. Parce que pays émergent, mais les BRICS, c'est pareil.
Bolsonaro est un libéral aussi.
Ah oui, complètement.
Bah oui, mais pas sociétalement.
Bien sûr, c'est ultra libéral de revenir sur l'IVG, de revenir sur le droit des homosexuels.
Je te parle
économiquement.
Mais les deux vont de pair.
La preuve que non, parce que Bolsonaro est extrêmement libéral économiquement. Donald Trump est extrêmement libéral économiquement et ça ne s'accompagne absolument pas de nouveaux droits.
Mais tu
au
sais
contraire,
ce que ça veut dire libéral pour tenir ce genre de propos.
Mais c'est justement pour ça que je te dis que pour moi, quand tu as comparé dans la même phrase la situation libérale dans le point sociétal de la France et que tu as dit en Australie c'est encore mieux, pour moi c'est deux sphères différentes.
Louisa,
la sphère capitalistique économique ne s'accompagne pas forcément d'une sphère sociétale
non,
en
mais
termes
le
d'avancée.
Problème, c'est que c'est les
Bolsonaro
discours...
est une preuve, Donald Trump est une
le
preuve.
Problème, si
Louisa
vous...
va dire un mot là-dessus.
Confus, c'est les discours populistes qui rejoignent les deux, c'est tout. Et du coup, en fait, récemment, comme on mélange les deux dans des discours populistes de politique qui se font élire, du coup, forcément, on est
mais
tous...
Mais c'est pas du tout lié pour
j'ai
moi.
J'ai une question très intéressante. Louisa, quel est ton rapport en tant que femme?
Attends,
c'est une vraie question.
C'est pas le débat.
Moi, on s'en fout du Canada.
Si,
c'est pas la question.
C'est une grande question parce qu'en tant que homesick, parce que c'est le sujet, le mal du pays, en tant que femme aujourd'hui en France et en tant que femme en Australie, qu'est-ce que tu sens comme différence?
C'est pas la même question. Je veux bien qu'on parle de la situation en France, soit d'insécurité, soit de manque de liberté, si tu veux. Mais c'est plus la même question. Si tu veux, on pose cette question-là, hein. Mais c'est plus la même question.
L'égalité homme-femme, quand même, fait partie des évolutions sociales.
Okay, absolument.
Oui. Voilà. Mais je pense que c'est dans ce sens que Jason pose la question.
Si tu veux, mais moi, sur le côté économique, ça me plaisait aussi. Louisa, dis-nous le mot que tu veux sur ce sujet.
Ok, merci. J'ai pas beaucoup de confiance en moi-même de parler bien des économiques ou des choses comme ça, mais je pourrais dire que je trouve en général, en gros, qu'il y a beaucoup de valeurs similaires entre l'Australie et la France. Je pense qu'il y a beaucoup de valeurs de la liberté, l'unité, la justice et des choses comme ça, mais je trouve que je peux voir ces valeurs dans des manières différentes entre les deux pays. Mais c'est ça, c'est quelque chose que j'aime bien parce que les valeurs sont pareilles et ça me va très bien parce que je suis cette valeur. Mais oui, dans chaque pays, il y a un grand paradoxe. Il y a des paradoxes en France que je trouve et il y a des paradoxes en Australie, je trouve. Pour être honnête, je trouve qu'il y a des trucs racistes en France et en Australie, tous les deux. Je pense qu'en Australie, c'est pas trop forte, mais peut-être parmi des autres Australiens, pas moi, pas mes amis, mais il y a des blagues qui sont vraiment racistes, qui alliaient des gens qui sont immigrants ou des choses comme ça. Mm-hmm. Mais je trouve peut-être en France, parce que la France et le français n'ont pas peur d'être vraiment conflictives ou des choses comme ça.
Oui. Alors oui,
je trouve que peut-être il y a des racismes qui est très beaucoup plus direct.
Okay. Mm.
Est-ce que tu dirais que c'est comme les Américains beaucoup qui viennent en France et qui disent les Français sont rude. Mm. Tu sais,
je ne me sens pas trop à l'aise d'en parler parce que j'ai pas envie de dire.
Je peux rebondir sur la vision nord-américaine.
Ok. Je ne voulais pas dire qu'il y a des racismes entre les Américains et les Français. Peut-être les Français et des autres francophones. Mmh. Peut-être qu'ils viennent d'Afrique, des choses comme ça. Mais je vais m'arrêter là.
Non, pas de souci. Ouais. Je comprends totalement ce que tu veux dire.
Pour le truc de rude, c'est vrai que sur la mentalité anglo-saxonne et notamment nord-américaine, les Français, et je pense les Européens de manière générale, sont vus comme des personnes qui vont aller vraiment au conflit et vont aller provoquer les autres. On va aller chercher la polémique.
Hein, c'est le côté débat.
Les chaînes d'infos, etc. Et en fait, ce qui était très intéressant, moi, j'avais fait des cours de ressources humaines. Voilà. Fait des cours de ressources humaines où, en fait, on t'expliquait comment surtout éviter qu'il y ait un conflit qui s'embrase au niveau, notamment, des syndicats. Et en fait, tout était fait pour protéger les salariés, pour protéger l'image de l'entreprise. Et en fait, j'ai des amis, moi, qui sont restés vivre au Canada. Donc, ils sont juste passés d'Ottawa à Montréal. Donc, ils sont partis plutôt travailler au Québec parce qu'ils étaient francophones. Et il me disait qu'au quotidien, ça pouvait être compliqué parfois d'avoir un environnement de travail avec des collègues où tu ne peux rien te dire. Tu ne peux pas avoir vraiment l'expression de ce que tu penses, d'avoir un truc à régler avec un collègue et d'aller venir le voir autour d'un café et dire « bon ben voilà, là j'ai un souci avec toi sur ce projet-là, je pense que ça va pas ». Tu fais le quart de la moitié de ce que je viens de dire. Ouais. C'est guerre mondiale dans l'entreprise et tout le monde s'affole et les RH s'affolent.
Donc c'est plutôt une chance chez nous alors.
Et en fait, c'est ça, ouais. Exactement. Et donc, quand tu travailles, et là, tu peux être frustré en tant que Français d'aller bosser dans ces environnements.
Philippe, un mot. Vas-y.
Quand j'ai dit qu'elle n'a pas fait une école d'ingé et tout, que j'ai eu un problème avec le français au début, c'est parce que vous êtes très.
Rentre dedans.
Direct.
Ouais.
On va dire comme ça. Et au Brésil, on passe. On ne peut pas vraiment dire j'ai pas aimé ça.
Tu fais des détours.
J'ai fait des détours. Ouais. Je vais dire, en fait, j'ai apprécié ton effort et tout.
Je pense que tu peux améliorer.
Parce qu'en fait, on pense à la personne. Je vais traiter les gens de la façon que j'aimerais bien être traité.
Oui. Mais nous, on adore être mal traité.
Ça, c'est
non, mais c'est vrai, c'est qu'à la fin, surtout, ton message est hyper dilué. C'est qu'à la base, tu viens voir ton collègue, t'en as vraiment gros sur la patate, etc. Mais comme la convention te fait prendre tous ces détours, etc., à la fin, le message reçu par l'autre, c'est en mode « bon, bon, ça va, c'est pas si grave que ça ». Et du coup, tu ne règles jamais les conflits, en fait.
C'est pour ça qu'on bosse que 4 jours, parce qu'on va plus vite.
C'est clair.
Non, au Brésil, on crée des conflits si on est trop direct.
Oui.
Donc, on va vraiment créer des conflits.
Moi, c'est passionnant, ça.
J'ai managé des gens en France et à la française. Et quand je suis allé en Australie et j'ai commencé à manager les gens, j'ai appris un nouveau mot en anglais qui est « blunt ». Qui en fait veut dire, on l'a pas trop ici,
ça
mais
fait beaucoup rire, Louisa.
C'est direct, froid, un peu rentre dedans. Ouais. Et tous mes collègues étaient là en mode, Jason, on aime beaucoup, t'es un bon manager, etc. Mais t'es trop blunt, en fait, c'est difficile.
Oui.
Parce qu'en fait, parfois, on a l'impression que tu nous engueules ou que t'es.
Louisa, t'es d'accord. Et dans cette relation avec Jason, tu l'as ressenti.
Il est vraiment, vraiment blunt.
Le
français, ça veut dire la même chose.
Ouais.
Oui, il vient de l'expliquer le mot. Mais oui, les français sont vraiment directs. Et je trouve qu'au début, c'était vraiment difficile pour moi en fait parce que ça me rend vraiment anxieuse parce qu'en Australie, s'il y a un problème, en fait on n'a pas de problème parce qu'on déteste, oui, bah oui. On déteste le conflit.
Tout est sûr,
on déteste le conflit.
On déteste le conflit. On a gagné 1800 nous, on a, de guerre en fait.
Nous, on adore.
C'est pour ça qu'ici, on n'a plus de monarchie.
Non, attends.
On déteste le conflit.
Je dois finir. Ok, le conflit. Non, je ris pas.
Est-ce que tu veux raconter la fois où on était tous les deux avec une amie anglaise et un ami français?
Vas-y, raconte.
C'est très drôle.
J'adore.
Ok.
J'adore les histoires.
En français,
et après,
en anglais.
Et juste après, on écoute Kylie Minogue.
Ah.
Mais raconte, et juste après, on écoute Kylie Minogue.
Ok. À ce point-là, je suis venue d'arriver à Paris. Et Jason m'a dit, ok, tu voudrais venir, et tu peux rencontrer mes amis, on va aller au bar. Et j'ai dit, ok, trop bien. Et nous étions quatre. Il y avait moi, la pote de Jason, une anglaise, et Jason, et son pote, il était français aussi. Et on était
c'est lequel, en... c'est lequel?
Johan.
Ah oui,
oui, on était en train de discuter.
Non, très romain.
On était en train de discuter. Et du coup, après, c'était entre Johan et Jason. Et le voix a augmenté.
Mais là, tu n'as pas vu quand vous êtes embrouillée, elle était sous la table.
Oui, non,
Lisa, elle était pas bien.
En fait, on ne s'est même pas embrouillée.
Oui,
on a juste.
Il n'y
a rien.
Rassure-toi, ma chérie, c'est rien du tout.
Et Emma,
ce jour-là,
Emma, la fille anglaise, et moi, oui, on était comme
terrifiés.
Comment on s'est fait?
En plus, le pire, c'est connaissant Johan et Jason, ça devait être sur une tenue de l'Eurovision.
Un drama queen.
Non, ça. Une chanson de l'Eurovision.
Je te le donne un peu. C'était sur le socialisme.
Ah, bah, tu vois. Okay. Comme quoi, ça t'attire que des problèmes.
Ah oui,
faut arrêter d'en parler, Jason.
Ah oui,
pas ici.
Après, ouais, le voix ont augmenté. Ils étaient en train de se crier. J'arrive pas à me souvenir.
Et toi, t'avais envie de mourir.
Ils étaient en train de parler, mais oui, ils étaient en train de crier et je vous jure que j'ai pensé qu'ils étaient sur le point de se tuer. C'était forte, le voix est
passionné, très passionné,
forte.
C'est juste
forte,
drama
blunt.
Queen.
Et toutes les deux, qui êtes d'un pays différent pour le coup,
oui.
Vous vous êtes regardées et vous étiez dans la même situation. Donc en fait, le problème vient vraiment de
non,
nous.
Non, mais
en
c'est
fait.
Une culture anglo-saxonne quand même.
Pas en Australie, parce que ok, un petit recul de la culture australienne.
Vas-y,
okay.
vas-y.
On ne parle pas du politique, on ne parle pas de l'argent et on ne parle pas de la religion.
Bon,
avec personne.
Nous, on parle que de politique.
C'est ça.
Que d'argent.
Française,
que de religion. On écoute Kylie Minogue, Get Out My Way,
c'est
et on se retrouve juste après. À
c'est
tout
vrai.
De suite. Nous sommes de retour, on a kiffé là. Kylie Minogue, énorme kiff, bien sûr.
C'est,
en
non, mais c'est
à
une reine en Australie.
J'adore, mais c'est une star incroyable. J'adore cette chanson, Get Out of My Way. Ça, c'est toute ma vie. Hein. C'est toute ma vie. C'est l'époque Tayo Cruz. J'aurais dit Tayo Cruz. Tu te souviens de Tayo Cruz, Kylie Minogue? C'était quoi le titre déjà?
Higher.
On écoutera un petit bout aussi. Allez, on se fait un kiff tout à l'heure. Louisa, chiant, la fin de la... Oui, qu'est-ce qu'il y a?
Non, c'est quand on donne pas de micro à Lucas, en fait, le mec qui se fait chouraffe son micro, c'est il jeune. A une haleine.
Oh, t'es con. Louisa, tu nous finis l'anecdote, là. Moi, j'adore.
Oui, ok, très bien. Alors, oui. tout d'un coup, Jason était hors de son siège, avec un doigt dans le bol de son pote.
J'ai eu peur.
Oh mon Dieu, le traumatisme que je me suis sentie. Oh, Emma et moi étaient vraiment des meilleures amies dans ces moments-là, parce que Jason et Joanne, et oh mon Dieu. Ok, et j'arrive pas à me souvenir comment ça s'est détendre, mais j'étais avec Jason le lendemain, et je lui ai dit, ah, c'était chouette de rencontrer tes amis, merci, mais j'ai remarqué quelque chose. Il m'a dit, ouais, et j'ai fait, peut-être tu ne t'entends pas trop bien avec ce mec-là. Il m'a dit, mais pourquoi t'as dit ça? Oh mon Dieu, il est mon meilleur ami, on s'entend super bien ensemble. Et mon petit chevreau australien, oh mon Dieu, j'arrive toujours à croire que le rapport comme ça marche trop bien. Mais
c'est drôle parce que c'est l'inverse en fait. Pour nous, on est vraiment amis avec quelqu'un quand on peut tout lui dire à cœur ouvert,
absolument,
honnêtement, et qu'on peut ne pas prendre de pincettes avec cette personne-là. Ça veut dire que c'est un vrai ami.
Et pour rebondir très rapidement, là on fait franco-australien, j'ai une histoire où c'est encore pire, c'est italiano-japonais, où j'ai un couple néo-zélandais d'une japonaise et d'un italien qui sont
sortis
ensemble.
Ça commence comme une blague, tu sais, dans un avion.
Non, c'est la cuisine fusion, mais
qui se sont mariés et en fait, lui donc est allé au Japon et il a vécu une expérience absolument exceptionnelle. Et ensuite, elle est allée en Italie, chez sa famille.
Là là. Oh, wow.
Elle a passé une soirée où, au bout de 2 heures, elle est dans sa chambre, elle a fait une crise d'angoisse, elle est partie en larmes. Et son mari revient et lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Enfin, en anglais. Et elle lui répond, mais vous allez vous entretuer, c'est horrible, vous êtes tous en train de vous engueuler. Et il est là en mode, ma amore, Italia. c'est normal, en fait, on sur le dessus et ça ne nous empêche pas de nous aimer. Et voilà.
Ah,
et
oui,
c'est le choc des cultures est hyper intéressant à
mais
ce
niveau-là.
Mais c'est
ce qui me passionne, moi aussi, dans ce que vous me racontez, dans ce qu'on apprend ce soir dans la conve.
Et à l'inverse, sur le côté friendly des Nord-Américains.
Ouais.
Parfois, c'est l'opposé. T'as l'impression qu'ils sont hyper friendly et tout, mais en fait, c'est des relations assez superficielles.
C'est ça. Est-ce que
dire
en France,
américain en fait, parce qu'au Brésil, c'est la même chose.
Ouais, okay, mais comme je connais pas l'Amérique du Sud, mais je ne parle pas pour
Felipe,
ça. Mais
est-ce que
du coup,
l'avantage en France, c'est pas que on est direct, mais aussi on est plus honnête en fait.
On est franc. Ouais.
On est transparent en fait. On dit les choses et
bah
quand
oui,
on est content, on le dit.
Comme
quand
ça.
On n'est pas content, on le dit.
On fake pas les émotions.
Ça fait 6 ans que je suis et je suis devenu comme ça. Donc j'ai rentré dans mon pays. J'ai rentré dans mon pays. Je
comme
suis.
Quoi, c'est possible.
Mais je suis regardé d'une façon que les gens me regardent, disent mais Felipe, tu t'arrêtes tout de suite parce que ça va pas du tout. J'ai dit ah ouais, je suis désolé. Je suis pas
Brésil,
en France.
Au Brésil.
Quand tu retournes là-bas, ouais.
Ouais. En fait.
Ça, c'est intéressant. Quand tu es retourné et tu retournes souvent là-bas, est-ce que les gens que tu as laissés là-bas, que tu retrouves de temps en temps, sentent que tu as changé et ils se disent oula, Felipe, ils nous l'ont un peu volé, transformé en français. Est-ce qu'ils te font la remarque en te disant oui, là, tu as changé, ça t'arrive?
Oui, en fait, c'est un sujet que je voulais qu'on touche tous
bien
ensemble.
Sûr, bien sûr,
c'est être un étranger dans son propre pays.
Oui, bien sûr.
Parce que ça, j'ai sens beaucoup, beaucoup. Toute fois que je rentre au Brésil, il y a des remarques. Et je ne me sens pas du tout complètement intégré.
Et pareil,
donc,
en France.
Pareil en France.
En France, on t'appelle le Brésilien et au Brésil, on t'appelle
en
le
France,
Français.
Je suis un étranger dans, mon propre pays.
Anaïs, donc, sur ce sujet, on en parlera juste après parce que nous qui sommes franco-tunisiens, on a la même, parfois la
mais
même.
Mais ça marche même juste en région. Clément, du coup, je ne pouvais pas ne pas parler de lui, mais qui est bourguignon
qui
et qui est un Dijon,
vie,
qui partage ma vie. À Paris, on l'appelle le bourguignon, le dijonnais, et à Dijon, on l'appelle le parisien.
Ouais.
Et ça marche aussi à cette échelle-là de 300 bornes.
J'allais dire sur ma meilleure amie collège, enfin bref, vers le collège qui était libanaise. Donc elle rentrait et le Liban, c'était quand même un périple, quoi. Mais elle
bien
y
sûr.
Passait tous ses mois d'août.
Ouais.
Et globalement, effectivement, elle me disait, c'est quand même dur, surtout en Picardie, tu vois le niveau social. C'est très dur d'être renvoyé en permanence au fait que t'es une arabe. Et là-bas, mais t'es renvoyé, tu n'es pas une arabe.
Parce que t'as
là-bas,
quitté le pays.
Là-bas, tu
es une
française.
C'est exactement ce que j'ai...
Et elle me dit, ça déjà, moi qui ne le vis pas, je pense que c'est pas facile à vivre. Parce que quelque part, t'as envie de te dire des deux endroits, ou au moins d'un d'eux, et t'es repoussé.
Ouais.
Mais encore plus quand t'as 14-15 ans, que tu cherches
une
place dans le monde, une identité, des origines, une culture, et que à chaque fois on te repousse en disant ce n'est pas moi.
Exactement. Exactement.
Mais je pense qu'Anaïs et moi, on le ressent. Et je sais pas si toi, Anaïs, quand t'étais jeune, t'allais en Tunisie souvent.
Étés, ouais.
Mais moi, tous les étés, je passais un mois en Tunisie.
T'es français, oui.
T'es français, oui. T'es jamais vu comme un Tunisien.
Ah non. Mais
pardon. T'es jamais vu. Je l'ai déjà dit, t'es plus français que moi en culture.
Ouais, mais c'est pas une balle, vraiment. Mais c'est dur parce que parfois en France, tu te dis, mais je suis pas vu comme un Français, je suis vu comme un Tunisien. Donc en fait, c'est aussi une histoire du déracinement d'il y a 30 ans.
Mais tu te fais pas avoir au souk quand même.
Non.
Tu te fais pas. On te la fait pas, toi.
Surtout si tu parles la langue.
C'est ça. C'est la gazelle, pratique. Deux secondes,
mais
après ça passe.
Je comprends ce que dit Felipe, c'est très émouvant parce que t'as envie de te dire, mais où est-ce que je suis chez moi en fait ? Est-ce qu'un jour,
je vois mes potes en train de parler de leurs problèmes et je commence à parler de mon problème à moi. Et les réponses parfois c'est ouais mais tu pleures en France
c'est
une rigolade tu vois tu pleures à Paris ouais mais tu passes le froid à Paris ouais mais tu as loupé le métro à Paris ouais mais tu dois payer des impôts en France
ça veut dire quoi au-delà du fait que
c'est moins grave que leur problème
ça veut dire que c'est moins grave la misère
c'est quelque chose de non développé
le soleil
oui ça veut dire que c'est un pays plus développé donc tu peux pas
ouais exactement c'est on peut je sais pas si vous Jason en Australie vous ressentez la même chose, mais moi quand j'ai ressenti ça, quand j'ai tant mes collègues en train de dire ça, mes amis en train de dire ça, c'est un problème des pays non développés. Ouais, je suis dans un pays développé, donc du coup mes problèmes ils sont moins graves. Donc du coup je peux pas m'y plaindre parce que eux ils ont la raison, ils ont ils peuvent s'y plaindre beaucoup et moi je suis ouais, je peux pas me plaindre parce que
légitime.
Même si
t'as pas le droit d'avoir des problèmes,
c'est complètement vrai, Felipe. Mais au-delà de ça, et après c'est un autre sujet où on va pas élaborer dessus, mais il y a des clichés, il y a des stéréotypes autour de chaque nationalité. Louisa qui vient en France en tant qu'Australienne, elle a affaire à quasiment zéro racisme.
Ça sent le soleil.
Toi, en tant que Brésilien, tu viens, il y a quand même un charme et une excitation autour du Brésilien, mais il y a quand même des stéréotypes qui ne sont pas forcément gracieux. Nous, en tant que Français, par exemple, en Australie, la seule chose, c'était bon, on est un peu voleur, on est un peu agressif, mais derrière, on est les gens éduqués, on est beau, on est looké, on est le luxe, on est la bonne bouffe. Les Français ont une très bonne image quand même en Australie, tu vois.
Clairement.
Et ça, ça aide. Et en fait, à chaque fois je le voyais parce que je suis sorti moi avec beaucoup de gens en Australie, des Égyptiens, des Indiens, des Brésiliens, qui en fait vivaient la même chose que moi au quotidien en tant qu'étranger, en tant qu'expat, mais la vision, rien que de leur couleur de peau, rien que de la manière dont ils s'habillaient face aux blancs australiens, il y avait une réaction qui était très très différente. Et ça c'est très intéressant. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez où on se sent jamais vraiment chez soi, c'est vrai, moi c'est vrai qu'en Australie je me suis toujours senti très français, j'étais très fier tous les matins d'acheter mon croissant.
J'ai remarqué que t'étais très très patriote là-bas.
Ah oui, j'étais extrêmement patriote en Australie.
Non, ça ressort plus quand t'es pas dans ton pays à toi.
J'étais très fier d'être français, j'ai mon drapeau, je l'emmène.
Tu reviens le lendemain, c'est fini. Hein.
Tous les matins j'avais mon croissant et tout le monde me disait oh my god, so fancy, so posh.
Mais t'en joues et
c'est
un peu.
Non, mais en fait, un croissant le matin c'est normal en France.
C'est pas normal en Australie, c'est un petit casse-croûte en fait. C'est comme une dessert.
Et puis maintenant je suis obèse. Et donc quand je suis rentré en France, je me sens français. Il y a plein de choses sur lesquelles je me sens vraiment franco-français. Par contre, c'est vrai que je ne m'entoure que de gens soit étrangers, soit qui ont vécu à l'étranger, parce que j'ai ce côté, comme je l'ai dit, très anglo-saxon, très international, qui fait que même.
Pitbull.
Est-ce que, non, mais moi j'ai une question.
Mister Worldwide.
J'ai une question relative à ça sur une notion qui m'était totalement étrangère.
On va le dire au revoir.
Avant de partir, mais vraiment en 30 secondes, c'est la notion de communautarisme. Qui n'existe pas en France. Les communautés, en fait, moi, je suis arrivée au Canada, du coup, anglophone, donc le mot communities, je ne comprenais même pas philosophiquement, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire.
T'es déjà allée au Bervilliers, toi ?
Non, mais sur le fait que
la communauté, là-bas.
Non, sur le fait que tu nourrisses, que tu entretiennes des réseaux de personnes qui font partie d'une communauté, mais qui n'est pas forcément liée à ton origine nationale. D'accord. Ça peut être ton corps de métier, ça peut être ton sport, t'as des communautés de foot américain.
Mais parce que nous, c'est le commun qui nous lie.
Non,
mais c'est la République française.
Parce qu'en France, quand ça fonctionne... Je parle vraiment au niveau local, très très local.
Parce qu'en France, on a du commun.
Et moi, je ne comprenais pas. Et le truc give back to the communities, j'ai mis 3 mois à comprendre ce que ça voulait dire.
Mais tu sais que tu n'as pas besoin d'aller ou à Ottawa ou à Sydney. Hein.
J'en vis pas du tout ce système-là.
Tu vas à Londres et globalement en Angleterre, c'est un système ultra communautarisé.
Ouais.
Et on y va droit devant.
Mais moi, j'ai pris la vraie claque, tu posais la question.
Non, je crois pas.
Non, la vraie claque, moi, c'est
la République française, je trouve qu'on est en train de sauver ça. Quand je vois, par exemple, et je vais parler de deux communautés, t'as d'abord les LGBT où il faut être trans ou non-binaire, ou zis,
et sinon, t'es pas intégré.
Ensuite, chez les personnes de couleur, je suis un Black American, je suis un Asian American. On n'a pas ça en France. En France, t'es français.
On en parle dans 10 ans. Dans 10 ans, tu verras.
Non, je pense qu'ils essaient de nous apporter ça, mais il faut se battre.
Des pics réac, toi, ça me fait bon.
Non, mais vous verrez.
Mais non, parce que c'est pas forcément dans le sens que vous pensez.
On y va droit. À cause de la gauche qui ferme les yeux.
Merci.
Mais tu vois, mais Louisa, tout va bien.
Louisa, ça va. Je te jure, ça va.
C'est toujours la même chose.
J'assume totalement ce que je dis.
Ça me fait mourir de rire parce que Wissem, qui est quand même le mec de toute la team le plus à gauche, et en plus, et là, il a des pics de réac.
Mais alors qu'en vrai,
ce sujet-là, en vrai, c'est intéressant et je le suis sur ça depuis des années.
Alors qu'en vrai, il y a des choses positives.
Il est de cette gauche ultra anticommunautaire qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est le seul à se battre pour ça encore.
C'était la socialiste.
Tu vois, et il faut le chercher.
Si Bernard Cazeneuve aussi, il vient de Cherbourg.
Oui, je vais en vouloir très longtemps à la gauche de nous laisser dans les bras de l'extrême droite en refusant d'ouvrir les yeux sur certains problèmes et en se vendant à une idéologie très anglo-saxonne.
Mais parce que ce que tu dis, la communauté avec un grand C général et que tu peux avoir plusieurs cercles, elle n'existe plus. Et donc du coup, les gens se resserrent.
Parce qu'il
n'y
a plus de commun, il n'y a plus de télévision, il n'y a plus de. On a remplacé ça par les réseaux sociaux. Ben oui. Moi, c'est ma théorie que je développe et que.
L'algorithme. Non, mais franchement, sur le fond, il n'a pas tort parce qu'il y a vraiment.
Je te jure que non. Je te jure que non.
Je pense que quelqu'un de ton âge, de toi, il y a 40 ans, il dit la même chose.
Non,
vous verrez que dans 10 ans.
Je te jure, sur le côté nord-américain du concept, moi je te jure, je vivais chez des Indiens et ils avaient des événements communautaires entre Indiens.
On n'a plus ça.
Qui habite au Canada. Et j'ai dit, est-ce que je peux participer? Et ils m'ont dit, bah non. Tu ne peux pas. En fait, le côté exclusion, c'est-à-dire
juste
que
parce que t'es chiante.
Tu ne fais pas partie, peut-être. Tu ne fais pas partie. Pourtant, je faisais pas de bœuf chez eux.
C'est con d'avoir fini de finir sur un truc aussi.
Non, c'est passionnant.
La différence, c'est que eux-mêmes sont en train de revenir dessus, et c'est là où on a gagné parce que nous, on n'a jamais allé à ce
niveau. Bah non, mais c'est aussi un idéal. Et je pense que là, ça fait une heure, donc on va vous libérer, et les amis.
Franchement, on pourrait.
On va en faire une. Vous allez revenir si vous voulez. On vous reviendrait une autre fois et on en fera d'autres sur d'autres sujets.
Parce que y a
avec des questions des auditeurs, ce serait sympa qu'on ait une liste de questions.
Ah oui, c'est vrai ça.
On va pas se mentir, tous les sujets du monde. D'ailleurs là, on a vraiment dérivé parce qu'il y a pas que le homesick ou tous les sujets du monde sont. C'est très intéressant de comparer à un pays un peu plus pauvre latin, enfin Amérique du Sud, avec un pays européen, un pays anglo-saxon de l'hémisphère. Enfin, c'est passionnant et les visions sont toutes différentes. Oui. Et in fine, putain, on fait partie de la même planète.
Moi, je peux juste conclure sur mon point commun avec Louisa. C'est quand je suis revenue de un an au Canada où il n'y avait du coup pas ça. La première chose que j'ai faite à 10h du matin, c'est de manger du brie et un pain au chocolat.
Ah bah voilà.
Dans le même repas.
Oui, ça gêne.
Je vais finir par la dernière question juste après la remarque de Jason qui s'en va la faire de suite.
Une des conclusions, je pense, et moi, c'est.
Bah, ça va, tu.
Non, mais.
Tu produis l'émission.
À skip.
Non, je suis pas assez bon. Meilleur que toi, mais toujours pas assez bon.
Oui. C'est pas dur d'être meilleur que moi.
C'est pas dur de. Tenez la Louise, pas mon chat, t'es brillant.
C'est pas dur d'être moins bon.
T'es brillant. Non, je pense, et on en discutait avec une amie française en Australie à l'époque. On a beau venir de France ou du Maghreb ou d'Australie ou de Brésil.
Tu vas pas nous dire.
Et être de couleur, etc. Comment?
Tu vas pas nous dire on est tous sur la même planète.
On est tous humains.
C'est pas ce que je veux dire.
Vas-y.
Parce que même. Enfin, je veux dire, oui, ça nous manque les pains au chocolat, oui, ça nous manque de parler français, les références, etc.
Mais on est tous contre
les juifs. C'est difficile quand on est.
On est tous antisionistes.
Non.
C'est le truc horrible.
Mais on pense tous qu'Israël ne devrait pas.
C'est ce qui nous unit.
We are the world.
C'est de l'humour, hein.
Ce que je veux dire, c'est très bateau, mais on ramène rarement cette chose. Home, là où on est, chez soi, c'est les gens. C'est les gens qui nous entourent. Et tu peux créer ta communauté, ton groupe d'amis et ta famille.
Exactement.
N'importe où dans le monde. Et aujourd'hui, si Felipe se sent bien ici, c'est parce qu'il a moi dans sa vie.
Voilà. Et Louisa aussi.
Je rigole.
Mais vraiment, moi, en Australie, à un moment, j'étais sur le balcon en train de fumer ma clope et mon verre de vin rouge français avec mes amis français. J'étais là en mode, putain, mais en fait, je peux être en Syrie ou au Bangladesh avec vous. Bon, j'y durerai pas longtemps. Donc,
j'aurais moins de vin rouge.
N'importe où.
Tant que je suis avec vous, c'est ma maison.
Home, c'est les gens. Et en fait, la tour de Babel, qui nous a séparés parce qu'on a des langages différents. Regarde, Felipe, il parle français avec moi, c'est pas sa langue natale. Je parle anglais avec Louisa, c'est pas ma langue natale.
C'est Jean-Claude Van Damme.
À la fin de la vie, un peu, ouais. À la fin de la journée, on se comprend et on ressent les mêmes choses. Et
tant
merde,
que t'es aware.
Sais, quoi.
C'est beau.
C'est une super conclusion.
Comme dirait Orelsan, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison.
Voilà, c'est une super conclusion, mais tu m'en voudras pas, je vais en faire une quand même.
Je t'en veux pas. Je t'en veux pas, mais les auditeurs.
J'ai une dernière question à nous poser, à poser à nos deux invités. Après, ça sera terminé. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui en France, loin de votre home, avec votre nouvelle home,
loin de votre homesick,
bientôt dans un mobile home, peut-être. C'est le mec qui connaît trois mots.
Et votre home cinéma.
Que vous soyez hétéro ou homo.
Ah oui.
Non, mais comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui en France?
Est-ce que vous voulez rester?
Est-ce que vous voulez toujours voir nos gueules ou est-ce que vous avez qu'une envie, c'est de rentrer chez vous le plus vite possible? Quel est votre avis là-dessus, Felipe?
Ok, je commence. Ouais, j'ai envie de rentrer chez moi, mais toute fois que je suis chez moi, j'ai envie de rentrer chez moi. Donc du coup,
j'essaie.
Plus où j'ai appartient, donc c'est beau ce que Jason a dit, parce qu'en fait, on s'appartient à tous les endroits du monde où il y a des gens qu'on aime bien. Donc du coup, oui, ma mère, elle me manque beaucoup. J'ai envie de rentrer, j'ai envie de la chaleur du Brésil, j'ai envie de la chaleur des gens. C'est ça que j'ai...
On peut se débrouiller sur ça, Felipe, t'inquiète.
Mais c'est beaucoup, mes amis. Et du
pour
coup,
se cotiser pour le billet d'avion
Non, sur la chaleur.
Du coup, je me sens bien aujourd'hui où je suis. Il fait froid, mais je me sens bien quand même. Mais je peux pas dire que j'ai pas envie de rentrer, parce que je vais toujours avoir envie de rentrer. C'est mon pays, c'est ma famille, c'est mes amis aussi là-bas. Mais dès que je suis, je vais aussi avoir envie de rentrer.
Donc toi, c'est compliqué, parce que dans ton bonheur d'avoir deux pays, deux communautés, deux familles presque, t'as toujours le mal du pays.
Exactement. Donc, je suis étranger de mon propre pays et je suis un étranger en France.
Et donc t'auras toujours un petit pincement où que tu sois, une envie d'être ailleurs. Et ça, c'est le revers de la médaille. Tu vois, c'est le côté négatif d'avoir deux pays quand même.
Oui.
Ah, c'est passionnant.
Il y a une partie de moi qui est là-bas et une partie de moi qui est ici.
Et tu as tes amis brésiliens aussi à Paris?
Oui,
c'est laquelle?
Quand je suis arrivé à l'école d'Angers, on était 30. Et donc, du coup, on est une dizaine encore
si
aujourd'hui.
Si on pouvait choisir la partie qui reste ici. Louisa, même question.
Oui, j'adore la France, j'adore. Je voudrais rester ici pour une année, deux années, quelque chose comme ça.
Ok.
Mais oui, j'ai envie de retourner chez moi. Même si je me suis sentie que j'avais besoin de partir pour avoir un changement de ma vie ou quelque chose comme ça. C'est vrai que l'Australie me manque beaucoup. Mais comme Frédéric vient...
Felipe.
Oh mon Dieu.
Mais c'est la version française, c'est Frédéric. Donc
non,
c'est
Philippe.
Ah bon,
c'est Philippe.
Non, c'est pas grave.
T'inquiète pas, Audrey.
C'est du racisme.
Mais quand
en France, c'est du racisme.
Non. T'inquiète pas, vas-y Alice, on t'écoute.
C'est pas vrai.
Ça, c'est parce que je suis quelqu'un de couleur, c'est ça?
Non, go ahead, Juliette.
Comme Philippe vient de dire que oui, même si je retourne en Australie, je sais bien que je vais avoir envie de retourner en France. Ouais. Alors c'est un peu difficile. Il y a une grande carte, je pense.
Non, mais on vous souhaite tout le bonheur.
Elle est en train de vivre ce qu'a vécu Jason dans l'autre sens. Quoi.
On vous souhaite vraiment tout le bonheur.
C'est ça qui nous rapproche, hein, parce que tout ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui, je la comprends. J'ai de la vraie empathie. Arrête de lever les yeux, les gens voient pas, parce qu'on est à la radio, c'est pas la télé.
Sam est en train de lever les yeux
au ciel.
Lucas, mais... tu veux dire un mot?
Je vais quand même finir ma phrase avant
que Lucas
parle.
Dit un mot.
Ce que dit Louisa, c'est très. Et je vais chanter une chanson maintenant. Vas-y, Lucas.
Déjà, vive la France.
Oui.
Et bienvenue, en fait. Tu vois, welcome.
Merci.
Ici, vous êtes chez vous,
c'est
tu vois.
C'est pour ça qu'il nous a fiché.
Et j'allais proposer.
Attends, avant de leur demander si vous êtes chez vous, est-ce que vous avez vos papiers avec vous? Est-ce que vous avez vos visas?
C'est une émission clandestine.
Les vacances brésiliennes, ça va. Hein. On n'est pas inquiets. Je propose un changement de playlist.
Toujours un petit taquet.
Pour terminer cette émission avec une magnifique chanson que tout le monde a oubliée.
Vas-y.
Qui était très bien.
Vas-y.
Et qui résume parfaitement cette émission. Et cette chanson, ça s'appelle Mon pays de Faudel.
Ah oui. J'adore.
Trop bien,
c'est une super chanson.
Le petit prince du rail.
Ça résume parfaitement ce que vous avez raconté.
Je voulais justement qu'on écoute, parce qu'on se disait qu'on était tous un seul grand pays avec sa famille, écouter We Are One de Jennifer Lopez, qui est une très bonne chanson.
Et Claudia Leite, qui est la brésilienne qui chante cette chanson.
Absolument, c'est pour ça que je voulais qu'on l'écoute. Mais très bonne idée, on va écouter Faudel Mon Pays, qui est une chanson exceptionnelle. Une des plus belles chansons du monde. Faudel Mon Pays. Jason.
J'ai pas fait de petit point cinéma. Brooklyn, qui avait été nominé aux Oscars, est un film qui peint l'histoire d'une Irlandaise qui part aux États-Unis dans les années 60.
Bah, tu et ça dépeint, en story.
Ça dépeint
c'est qui, ce mec
vraiment tout ce qu'on est en train
tu
de vivre
en
aujourd'hui.
Story.
Mais je pense... Non, mais c'est bien d'avoir des références.
Non, mais t'as raison, on le fait à chaque fois en fin d'émission.
C'est bien d'avoir des références, donc regardez. Pour couper.
Non, non, je te jure que non.
Regardez
non.
Brooklyn,
avec
exceptionnel.
L'accent. Avec l'accent.
Génial.
Regardez
le film
Brooklyn.
Est génial.
Agree with you,
c'est
guys.
Sur quoi
Brooklyn, c'est l'histoire d'une Irlandaise.
Mais c'est sur quelle plateforme?
Sur toutes les plateformes.
Brooklyn, c'est aux États-Unis.
Je sais pas pourquoi tu prends cours comme ça. I have no idea.
C'est pas grave. Moi, j'ai une référence de paillasson aussi sur Castorama. Ça s'appelle Home Like Home. Et tu le mets sur ton paillasson.
Vous êtes ici.
Voilà.
Home is where the heart is.
Home is where the heart is.
Vous êtes ici, les moulineaux.
Mais t'as raison. Merci, Jason, d'avoir irradié cette soirée. Merci à tous d'avoir été avec nous. Un grand merci à Felipe et à Louisa.
Oui,
qu'on peut applaudir.
Merci. Bravo, bravo, bravo. Merci. C'était super.
Obrigado. Et thank you.
Et un grand bravo. Alors, Felipe, c'est trop facile. Mais Louisa, un grand bravo pour ton niveau de français
incroyable.
En 7 mois.
Incroyable.
Avec des mots comme paradoxal.
Ouais, c'est vrai. Et surtout.
Mais c'est le pareil en anglais.
Ouais. Bravo d'avoir compris Fihala, qui est un mot français très difficile.
Bravo, bravo.
Mais merci beaucoup à tous les deux. Vous êtes les bienvenus dans notre grande communauté française, parce que la France, c'est aussi du commun. Et vous êtes les bienvenus dans ce commun. Et on est très heureux de vous avoir écouté, de vous avoir entendu
comme
cette semaine.
Un.
Exactement, oh. Exactement. Like one. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine dans la con avec un épisode exceptionnel. Vous verrez comme toutes les semaines. Et puis dès ce week-end pour Vaut mieux en rire. Et on se quitte avec cette chanson exceptionnelle de Faudel. Ça s'appelle Mon Pays. Et on embrasse Faudel hein, où qu'il est. Hein.
Je pense qu'il est rentré dans son pays. Là.
Oh. Ah non.
Ah bon, on a voté comme il fallait. Quand même. Oh. Ah, une fois qu'on a dit tout ça.
Merci à tous. À très bientôt.
De souvenirs gravés, de cours d'école et d'été, trop d'amour pour oublier que c'est ici que je suis né. De temps abandonné sur les bancs de ma cité, trop d'amis pour oublier que c'est ici que je suis né. Que c'est ici que je suis né.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com